Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Nathalie, bonsoir, bonsoir. Théo. Vous allez bien?
Oui.
Bon, bah écoutez, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est le retour des vacances.
Ouais.
Mais on va un petit peu profiter de ce petit moment pour encore voyager et prolonger un petit peu encore un peu les vacances. On va voir ensemble, vous allez voir, j'ai trouvé d'autres recettes qui sont sympas, faciles à réaliser. Alors, on voit ensemble tout de suite les ingrédients et le matériel que vous aurez besoin pour ces recettes de ce soir. On a prévu de faire donc de la flamiche au poireau. Ça, c'est quelque chose de chez moi, donc vous allez découvrir.
Du Nord.
Du Nord. Ça, c'est bien parce que je trouve que quand on a les enfants à la maison et qu'ils n'aiment pas forcément le poireau, ça leur fait manger des légumes. Alors, pour la flamiche, il vous faudra 500 g de poireaux, 150 g de lardons, de lard coupé en dés, 60 g de farine, 20 cl de lait, 2 œufs, 100 g de comté râpé. Alors, vous pouvez mettre du gruyère si vous trouvez que le comté est un peu fort. Une pincée de noix de muscade, une pâte brisée ou feuilletée. Moi, perso, je préfère la pâte feuilletée. Voilà, parce que ça donne un petit peu plus de croustillant. Et puis du poivre et du sel, bien évidemment. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un couteau, d'une casserole, d'un moule à tarte, bien évidemment, et d'un fouet. Et puis pour le plat, j'ai choisi un plat qui est un petit peu long en cuisson, mais qui est super bon et qu'on n'a pas l'habitude de manger, c'est-à-dire le canard à l'orange. Donc le canard à l'orange, vous avez besoin d'un beau canard, c'est bien parce que on est juste un mois et demi avant Noël et on va pouvoir commencer à trouver les canards. Voilà, il y a aussi des saisons où on les trouve et puis d'autres saisons où on ne les trouve pas. Mais là, on est dans la bonne période. Donc, un beau canard, 70 g de beurre, 20 cl de Grand Marnier, 10 cl de cognac. C'est fort aromatisé et alcoolisé, mais avec la cuisson...
Ça
s'évapore. 7 oranges, des belles oranges. Vous pouvez prendre des sanguines aussi, c'est sympa. C'est le goût qui change. Une pincée de sucre, un trait de vinaigre de Xérès, et du sel et du poivre, bien évidemment. Je le dis à chaque fois, mais le sel et le poivre est important parce que ça relève les goûts sucrés et salés de votre cuisine ou de votre pâtisserie. Au niveau matériel, on aura besoin vraiment, alors tout dépend du canard que vous avez, mais une cocotte et, ou un grand faitout qui va au four, ça c'est important, une casserole, un chinois et un fouet. Et puis pourquoi pas servir un vrai gratin dauphinois avec. Donc le gratin dauphinois, on va faire 800 g de pommes de terre, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 20 cl de lait, 20 cl de crème. Et puis, alors ça ne sera pas un vrai gratin dauphinois. Voilà. Mais moi, je l'ai appelé comme ça. Parce que je vous rappelle quand même, le gratin dauphinois, c'est uniquement avec de la crème. Donc, on aura 70 g de beurre, 2 pincées de noix de muscade, et du sel et du poivre. Au niveau du matériel, on aura besoin d'un économe, d'un couteau, d'un plat à l'enfour, bien évidemment. Et puis, un fouet et un saladier. Et on terminera par un gâteau aux noisettes. Et il vous faudra pour ça 200 g de noisettes décortiquées et émondées, 50 g de sucre, 100 g de farine, 2 œufs, 100 g de miel, 60 g de beurre fondu. Et pour le matériel, vous aurez besoin d'un mixeur électrique, d'un saladier, d'une cuillère en bois et d'un moule à cake. Alors, moi, j'ai mis un moule à cake parce que j'aime bien, mais vous pouvez le faire dans un gâteau, dans un moule rond, hein. C'est pas un problème. Moi, je trouve que c'est plus sympa. Ça sèche moins au niveau de quand on fait les parts, enfin, quand il en reste. Voilà, nous allons voir donc ensemble la Flamiche. Mais avant, Nathalie, je pense que tu as une histoire qui, je pense, est du côté du Nord, voire la Belgique.
Eh oui. Alors, la Flamiche, c'est un type de tarte dans la cuisine traditionnelle de Belgique et du Nord, de la France et de la Picardie. On en compte plusieurs, parmi lesquelles la Flamiche dite nantaise, faite à base de fromage maigre et d'œufs. Elle se déguste chaude et accompagnée d'un vin de Bourgogne. Cette spécialité de la cité de Quimper est mise à l'honneur par la confrérie des quartonniers de la Flamiche dite nantaise qui a été créée en 1956 et dont le but essentiel est de faire connaître les spécialités et les charmes de la région dite nantaise ainsi que les traditions culinaires régionales. Alors, il est possible de déguster la Flamiche hors de la braderie de Lille, lors de la braderie de Lille, plutôt, qui a lieu chaque année à partir du premier week-end du mois de septembre et durant toute cette semaine. Il y a la Flamiche au Marois, l'originaire de l'Avesnois, présente en Nord-Pas-de-Calais. La Flamiche au poireau Picarde, qui est une tourte au poireau souvent proposée dans les restaurants traditionnels en Picardie. La même plate porte le nom de tourte au poireau dans le Nord-Pas-de-Calais. La Flamiche samarienne. Elle, tourte au poireau et au saumon frais, originaire d'Abbeville et de la baie de Somme en Picardie. On pile au mortier le fromage blanc bien gras avec le jaune d'œuf et l'eau de rose, du beurre frais, de la fine farine et du sucre, le tout mêlé ensemble pour qu'il y ait une liaison. Et c'est mis sur des feuilles de vigne et on les cuit au four. Et la première recette de la Flamiche inscrite dans le trésor de santé parue en 1607, l'ancêtre de nos livres de diététique moderne. La Flamiche était alors un gâteau au fromage, ainsi nommé parce qu'on la faisait cuire dans le four au moment où le bois s'enflamme. Dans les campagnes picardes, la Flamiche a ensuite désigné des galettes sucrées ou salées à base de poireaux, mais aussi de citrouille ou d'oignons.
Donc vous l'avez bien compris, cette Flamiche, elle est à toutes les sauces que vous voulez.
Ouais.
La Flamiche maroilles, ça sera pour une autre émission, parce que ouais. Ça c'est un truc qui me tient à cœur aussi, parce que les gens disent « ouais, le maroilles, ça pue, machin ».
C'est pas vrai.
Eh ben, ce n'est pas vrai.
Moi, j'ai des origines du Nord aussi.
Ça sent au départ, mais à l'arrivée, c'est tellement bon.
Alors ça sent fort, c'est vrai qu'il ne faut pas trop toucher avec les doigts, mais au goût, c'est pas si fort que ça
non,
en fait.
Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est comme bon. C'est comme le mincer, hein. Ça sent fort. On peut dire que ça pue parce que ça dépend comment il est fait. Et puis je vous raconterai aussi comment est fait le maroilles, parce que ça, la couleur du maroilles, c'est bien spécifique au Nord. Et c'est il y a que dans le Nord qu'on trouve le vrai maroilles et la couleur. Voilà, ça sera pour une autre émission. Faut que j'y pense, faut que je mette de ça dans mes tablettes.
Je t'y ferai penser.
Et puis je ferai goûter à la radio, donc
on va embaumer le studio,
ça va être top. Merci Nathalie, parce que là ça me donne un petit coup au cœur de parler de mon pays que j'adore. On voit les ingrédients pour la Flamiche. Donc il vous faudra 500 g de poireaux, 150 g de lard coupé en dés, 60 g de farine, 20 cl de lait, 2 œufs, 100 g de comté ou de gruyère râpée, une pincée de noix de muscade, une pâte feuilletée ou brisée, prête à l'emploi, du poivre, du sel, et côté matériel, un couteau, une casserole, un moule à tarte et un fouet. Pour ça, vous aurez besoin de 20 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. On a plus de cuisson que de préparation. Comme ça, ça vous laisse le temps de faire plein de choses derrière. Voilà, alors pour commencer, on va laver et couper en rondelles les poireaux. Donc bien souvent, ils ont de la terre à l'intérieur, donc c'est important de les couper en rondelles et de les laver après. Hein, donc comme ça, vous avez toute la terre qui descend en bas dans l'eau, donc vous les laissez un peu tremper, et vous avez toute la terre qui est plus lourde, elle va descendre, comme ça vous en aurez beaucoup moins dans les feuilles. Vous le rincez plusieurs fois, ça c'est important, parce que la tarte au poireau avec sa scrunch à l'intérieur, c'est pas terrible. Voilà, ensuite vous allez plonger dans l'eau bouillante, mais vraiment quelques minutes, les poireaux, donc coupés en rondelles. Ça c'est, on va juste les blanchir, donc de façon à ce qu'ils soient pré-cuits, on va dire. Et puis après, on va les égoutter. Donc vous faites bouillir votre eau, vous les plongez vraiment quelques minutes dedans, 2-3 minutes, et vous les égouttez tout de suite dans une passoire. Ensuite, dans une casserole, vous allez faire revenir vos lardons. Alors surtout pas d'enlever le gras, hein. Moi j'enlève jamais le gras. Voilà, prenez un lard qui soit pas trop gras, mais qui soit un petit peu quand même gras, parce qu'on a tendance à trouver du lard, ça rend l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, oui. Mais après, c'est voilà, et l'eau, elle s'évapore et on n'a plus rien dedans. Alors que le gras est important pour cette recette et quand on cuisine de toute manière le lard. Donc, on va donc mettre le lard, on va y ajouter de la farine. Donc, on va mélanger avec le fouet, puis on va rajouter du poivre, la noix de muscade. Et on va mélanger toujours dans la casserole. Alors, casserole ou poêle, hein, c'est comme vous le sentez, comme ce que vous avez sous la main. Et vous allez mélanger les poireaux avec. Donc, ça va vous faire un genre de béchamel, hein, puisque tout ça, c'est à feu doux. Hein, on ne va pas faire ça à feu vif. Et puis, on va rajouter le lait au fur et à mesure, tout en remuant avec... avec le fouet. Et ça, vous faites ça pour que ça, vous maintenez la température, donc un feu doux, jusqu'à ce que ça devienne un petit peu épais. Pas trop non plus, parce que on cherche à faire une grosse béchamel. Voilà. Et puis, vous ajoutez un œuf entier, les œufs entiers, un à un, en fouettant énergiquement. Et puis après, vous allez rajouter les 30 grammes de comté. Donc dans la recette, on avait 100 grammes. J'utilise que 30 grammes pour le moment. Après, vous verrez que je vais en utiliser un autre moment. Donc pour cela, notre appareil est prêt. Vous allez allumer votre four à 180 degrés. Donc, je vous rappelle, le thermostat, c'est 6. Vous allez étaler donc dans le moule votre pâte feuilletée en gardant le papier cuisson qui l'accompagne. Comme ça, ça n'accroche pas à votre moule. Et puis, vous allez verser la préparation et enfourner à peu près 20 minutes. Et puis, en sortant la flamiche de votre four au bout de 20 minutes, et ben vous allez la saupoudrer du reste de comté ou de gruyère râpée qui vous restait. Et vous allez la faire redorer 10 minutes. Donc, vous la repassez 10 minutes au four et vous la laissez tiédir avant de servir. Parce que le poireau, quand il sort du four, ça brûle. Donc, il vaut mieux la laisser tiédir. Et ça, vous pouvez déguster ça avec une belle salade. Encore une fois, une belle salade d'hiver. Hein. Il y en a plein qui se mettent là. Alors, il y a une autre façon de faire la flamiche, mais celle-là, c'est la plus simple et la plus rapide. À faire. Voilà, et surtout vous mettez la noix de muscade au parfum que vous un petit peu plus si vous aimez plus la noix de muscade. Voilà, ben, avant de continuer la suite, ben je vous propose une pause. À tout de suite.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute.
carotte sur de mon cou. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et les dangers. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher. Dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide. Tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent. Et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais, jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis sur tout, aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois 2. Mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire. Je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran. Et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et les dangers. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour une nouvelle recette. La recette, c'est le canard à l'orange et le gratin dauphinois. Je trouvais que ça se mariait super bien ensemble. Je vous propose ça. Avant, j'aimerais bien, Nathalie, que tu nous parles, parce que je sais ce que tu vas dire, c'est pour ça que ça me fait sourire, du mot canard.
Alors, canard, c'est un terme générique qui désigne des oiseaux aquatiques ansériformes, au cou court, c'est dur à dire, au large bec jaune aplati, aux très courtes pattes palmées et aux longues ailes pointues, domestiquées ou pas. Alors, ils font pour la plupart partie de la famille des Anatidae. Ce mot désigne des espèces qui ne portent pas nécessairement un nom vernaculaire. Contenant le terme canard, en effet, certaines espèces qualifiées de canards sont désignées par des noms vernaculaires comportant des termes comme dendrocygne, sarcelle, tadorne ou brassemer. Le canard sauvage, c'est un oiseau migrateur, c'est du canard colvert que sont issues les nombreuses races de canards. L'origine du terme canard n'est pas connue. Une orthographe connue au XIIIe siècle donne canard avec un T à la fin. Il est probable que ce terme désigne Q-U-A-N-A-R-T, effectivement. Il est probable que ce terme dérive d'une onomatopée comme caqueté. Ce terme est aussi générique. Les espèces appelées canards peuvent être plus spécifiquement appelées pilet, sarcelle, tadorne. Pour désigner son cri, on dit que le canard cancane. Et l'onomatopée coin-coin est utilisé pour décrire ses vocalisations. Le canard femelle adulte est la canne, le jeune canard le caneton, le canard sauvage de l'année ne maîtrisant pas encore son vol, le halbran. L'origine du mot canard se rapporte au cri de l'animal dont on dit qu'il canne. Ce mot figure dans de nombreuses locutions populaires, peu amène ainsi la formule Ça ne casse pas trois pattes à un canard signifie que la situation n'a rien d'original, tandis que l'expression faire un canard sert à se moquer de celui qui porte une attention outrancière à une galante compagnie. Faire le canard. Attention à ne pas faire un canard si vous jouez d'un instrument de musique et n'oubliez pas d'acheter votre canard chez le marchand de journaux.
Merci Nathalie. Tu vois, c'est, moi je trouvais que c'était sympa ça.
Ouais.
Ça change un peu de l'histoire. Et puis, ben, pour les gens qui ne savaient pas qu'un petit canard c'était un caneton, voilà, ou un canard qui ne maîtrise pas le vol, un albran.
Oui.
Donc voilà, c'est sympa. Alors, pour info, moi je vais rajouter juste une chose, puisqu'on a parlé tout à l'heure du Nord. Et ben, faire un canard, c'est en fin de compte tremper un petit morceau de sucre dans une tasse de café et de le faire fondre sur la langue.
Exactement.
Et voilà, c'est une gourmandise du Nord. Donc après, je sais qu'au Canada, faire un canard, c'est un bisou. Voilà.
D'accord.
Donc bon, il y a plein de choses. On pourrait passer une émission entière sur le canard, mais là, c'est pas le but. On va revenir à notre recette du canard à l'orange. Alors, on revoit un petit peu les ingrédients. Pour cela, on a besoin donc d'un beau canard, de 70 g de beurre, 20 centilitres de Grand Marnier, 10 centilitres de cognac, 7 oranges, une pincée de sucre, un trait de vinaigre de dégraisse, du sel, du poivre. Côté matériel, vous aurez besoin d'une grosse cocotte pouvant contenir le beau canard, bien évidemment, et puis et surtout allant au four. Et puis une casserole, un chinois et un fouet. Comptez à peu près 20 minutes de préparation, donc là, on n'est pas trop mal au niveau du temps. Par contre, au niveau de la cuisson, ça dépend de votre canard. On aura 1h30 à 2h. Parce que là, plus il va être cuit, meilleur il sera. Hein. Et c'est pas parce qu'on va le cuire qu'il sera sec. Bien au contraire, s'il y a du bon jus à l'intérieur, il sera tendre et vous pourrez le manger plus facilement sans être sec. Alors, pour commencer, on va l'assaisonner, ce canard. Donc, on va assaisonner l'intérieur et l'extérieur du canard, donc avec sel, poivre. Et puis on va le mettre dans le beurre dans le faitout et dans le faitout qui va au four et on va le faire fondre ce beurre. Et puis après, quand il est fondu, on va déposer le canard dans le faitout et on va le faire dorer de tous les côtés. Alors, vous pouvez le faire dans le faitout, alors pas forcément au four, mais à la poêle, enfin dans la cocotte, mais il faut que cette cocotte reste et aille au four après. Donc, vous pouvez le faire au feu dans un premier temps, mais moi, j'aime bien le faire au four parce que ça fait déjà une première cuisson. Donc, et pendant que vous faites ça, alors votre four, il doit être à 160 degrés. Voilà. Donc, ça cuit tout doucement, gentiment, mais il doit dorer une heure et demie, voire plus. Hein, donc, moi, j'ai mis entre une heure et demie et 2 heures. J'aime bien le mettre jusqu'à 2 heures. L'idée, c'est de le retourner régulièrement de façon qu'il dort tout le temps. Enfin, qu'il dort. Qu'il soit doré.
Oui. Hein.
Alors, il dort aussi, mais même plus que plus. Mais voilà, donc pensez à le retourner à peu près toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, bon, vous le retournez d'un quart et vous allez voir, il va dorer partout. Pendant ce temps-là, vous allez peler vos 4 oranges à vif, donc qui est détaillé en tranches en retirant la peau blanche. La peau blanche, en fin de compte, c'est la partie la plus amère de l'orange. Donc, vous coupez en quartiers et puis avec un couteau, vous enlevez les parties blanches. Vous allez voir, c'est relativement facile à faire. Et puis, avec les 3 autres oranges qu'il vous reste, eh ben, vous allez les presser. Donc, il faut un presse-agrumes ou vous faites entre vos mains. Si vous avez de la force, c'est parfait. En fin de cuisson, donc on va arriver à 2 heures de cuisson. En fin de cuisson, vous allez donc arroser votre canard des 10 centilitres de Grand Marnier. Et puis à la sortie du four, vous allez réserver votre canard au chaud. Et donc, vous l'enlevez de votre plat, vous le mettez dans un autre plat de façon à le garder au chaud. Et puis, vous allez passer le jus au chinois. Donc, ça veut dire que toutes les petits grains, il faut que la sauce, vraiment le chinois, il soit fin de façon à ce que votre sauce soit limpide.
C'est le jus de cuisson. Hein,
non ? C'est le jus de cuisson. Donc, il va y avoir des dépôts de gras, il va y avoir... pas mal de peut-être de la peau qui sera restée, etc. Donc voilà, moi je le passe au chinois. Après il y en a qui le font pas. Moi je trouve que c'est plus sympa. Et ce jus, vous allez le passer, vous allez le mettre dans une casserole avec le jus d'orange que vous avez pressé, le sucre, le vinaigre de Xérès. Donc vous vous souvenez, j'avais mis un trait, hein, vraiment très très peu, parce qu'on a quand même un petit peu d'acidité et ça serait dommage de rater votre sauce. Le cognac et le reste de Grand Marnier, hein, puisque je vous rappelle qu'on avait 20 centilitres de Grand Marnier, on n'en a mis que 10 en fin de cuisson. Alors, en fin de cuisson, vous pouvez aussi mettre le Grand Marnier et faire flamber. Franchement, je ne le fais pas. Mmh. Voilà, moi, je ne me prends pas la tête et puis je ne brûle pas ma cuisine pour autant. Parce que quand vous faites flamber, il faut être sûr de soi. Voilà. Et il faut avoir une très grande cuisine et une hauteur aussi. Donc, je reviens donc sur ma sauce. On l'a passée, on a rajouté le jus d'orange, le sucre, le vinaigre de Xérès, le cognac et le reste de Grand Marnier. On mélange la préparation et on fait réchauffer doucement, vraiment doucement, 10 minutes. Voilà, on passe de nouveau la sauce au chinois. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que avec les oranges pressées, il vous reste de la pulpe. Mmh. Donc parfois, moi j'aime moins bien la pulpe. Donc du coup, pour que ça soit encore une fois très limpide et très lisse comme sauce, voilà, vaut mieux la passer une deuxième fois. Et puis après, vous allez verser un peu dans la casserole et réserver au chaud. Donc, vous mettez bien dans... Vous pouvez mettre dans une saucière, hein, par exemple. Mais le reste, vous le mettez au chaud avec votre canard. Ensuite, on va mettre les rondelles d'orange à réchauffer doucement dans la casserole avec la sauce. Donc, je vous rappelle qu'on a mis une partie de la sauce au chaud, et l'autre partie, il en reste un petit peu, on va mettre les rondelles que vous avez pré-coupées tout à l'heure, des rondelles d'orange. C'est pour la déco, c'est aussi pour donner un petit peu ce goût différent qu'avec la sauce qui aura cuite. Et puis, alors, la partie la plus compliquée, c'est de couper cette bête. Donc, vous la coupez, en général, on la coupe comme un poulet. Voilà, vous ne prenez pas la tête, c'est comme un poulet. Et puis, vous disposez ça sur un plat de service. Si vous ne mangez pas de suite, vous le mettez sur un plat de service qui va au four et vous le recouvrez de papier aluminium de façon qu'il ne sèche pas et vous le maintenez au chaud. Et au moment de servir, vous allez décorer avec les oranges qui auront trempé dans la sauce et vous allez napper de sauce. Et voilà, vous allez servir le reste de la sauce dans une saucière pour ceux qui en veulent de nouveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire de grands blabla, de grands trucs. Ça se cuit au four. Alors, c'est un petit peu long, mais c'est un vrai délice. Et vous avez ce mélange de salé-sucré qui est assez sympa. Et puis, vous servez ça bien chaud et c'est super bon.
Ça voilà. Pourrait être un plat de Noël, ça changerait de la dinde, je trouve.
C'est pour ça que je l'ai fait à cette période-là, parce que ça vous permet de voir un petit peu la recette, de prévoir la préparation que vous allez avoir. Et puis, moi j'aime bien faire ça au moment de Noël, parce que effectivement, t'as raison, ça change du gigot, ça change de la dinde, qui est parfois sèche, alors que là, si vous vraiment vous faites cette recette, et plus il y a de jus, meilleur le canard sera. Mmh. Hein, donc voilà. Et puis, alors si vous voulez, on peut le faire aussi, demander à votre volailler de découper votre canard à l'avance. Et dans ces cas-là, ben, vous faites exactement la même chose, mais il faut vraiment que ça tombe dans le jus.
Mais il faut l'arroser de temps en temps.
Et il faut l'arroser régulièrement. On peut faire comme ça, c'est aussi rapide, mais il faut faire attention parce que ça sèche beaucoup plus vite.
C'est ça.
Mais il faut vraiment qu'il soit dans le jus. Voilà. Hein, et moi, ma grand-mère disait, tant qu'il y a de l'eau au robinet, il y a du jus. Voilà. Ben, écoutez, moi, je suis pleine d'émotions quand j'ai ça, parce que ça sent bien Noël avec l'orange,
oui, c'est ça.
Le canard, c'est festoyant, gargantuesque même.
Ouais. Hein.
Ben, écoutez, on continue peut-être voir avec le gratin dauphinois. Hein, on a un petit peu le temps avant la pause. Par contre, tu peux peut-être nous raconter quelque chose sur le gratin dauphinois, Nathalie.
Alors, le saviez-vous ? C'est un plat montagnard par excellence. Ce gratin a été officiellement mentionné pour la première fois le 12 juillet 1788 à l'occasion d'un dîner organisé par le duc de Clermont-Tonnerre avec alors lieutenant général du Dauphinois. Ce plat est ensuite devenu un mets de tous les jours, mais il popularisait à l'époque la pomme de terre récemment découverte. Le petit truc, l'authentique gratin dauphinois ne contient ni œufs ni fromage, mais seulement des pommes de terre et de la crème. Si vous ajoutez de l'emmental ou du gruyère, vous le transformez immédiatement en gratin savoyard.
Eh bien oui, donc là j'ai fait une petite entrave. Alors je ne mets pas de gruyère dedans ce soir, par contre je mets des œufs. Et à partir du moment où vous rajoutez des œufs ou du gruyère, ce n'est plus un gratin dauphinois, ça s'appelle autrement.
Gratin savoyard.
Non, alors gratin savoyard c'est le fromage.
Ah oui, c'est
essentiel.
Le fromage, d'accord.
Mais là on a rajouté des œufs pour, voilà, pour lier, moi je trouve que ça lie mieux, voilà. Bon, c'est comme ça, moi je le fais comme ça. Enfin, et c'est moins, on va dire que c'est moins gras.
D'accord.
Mais voilà, si vous n'avez pas d'œufs, vous pouvez le faire avec des œufs. Dans ces cas-là, ça s'appelle un vrai gratin, parce que le vrai gratin, c'est avec des pommes de terre en lamelles et avec uniquement de la crème fraîche et pas de lait. Donc là, moi, j'ai rajouté du lait pour un moelleux et j'ai rajouté des œufs encore. Donc, voilà. On va appeler un chat. Ce n'est pas un gratin, mais je l'ai appelé comme ça. Et puis, ceux qui ne sont pas contents viennent me le dire. Voilà. Alors, je vous rappelle peut-être une pause avant de faire la recette. À tout de suite.
Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. veux tout savoir et voir dans le noir.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, donc nous revoici. Avant la pause, on a parlé du gratin dauphinois. Maintenant, voici la recette. Je vous rappelle donc les ingrédients: 800 g de pommes de terre, 2 œufs, 20 cl de lait, 20 cl de crème, 70 g de beurre, une pincée de noix, 2 pincées de noix de muscade, du sel, du poivre. Et côté matériel, on aura besoin d'un économe, d'un couteau, d'un plat à gratin, d'un fouet et d'un saladier. Il vous faudra 20 minutes de préparation. Là, pour le fait, ça, c'est bon. Et par contre, il vous faudra 50 minutes de cuisson. Parce que ça se cuit assez. C'est de la pomme de terre, donc automatiquement, c'est plus long. Alors, c'est parti donc pour la recette. Vous allez d'abord, dans un premier temps, éplucher les pommes de terre, les couper en rondelles. Et en, les rondelles à peu près de 3 mm. Donc si vous avez une mandoline, c'est bien, c'est sympa. Si vous n'en avez pas, bah, vous coupez comme ça. Hein. Bon, vous faites attention avec la mandoline, hein, parce que les doigts, les bouts oui. des doigts, et si vous en servez, servez-vous de... Il y en a un ustensile qu'on met par-dessus la pomme de terre pour éviter de se couper la main. Sinon, si vous faites comme moi, c'est la main à plat. Complètement à plat. Moi, je me sers jamais de cet ustensile-là parce que ça glisse toujours. Voilà, et ça me gave. Je le dis comme je pense. Ensuite, vous allez laver. Vous voyez qu'on n'a pas lavé les pommes de terre. Donc, on lave les pommes de terre après la coupe. Et surtout, on les essuie soigneusement. Donc, dans un torchon, c'est beaucoup mieux. Un torchon propre. Et en plus, après, vous allez beurrer largement le plat gratin. Donc, n'hésitez pas à mettre pas mal de beurre. Ça évitera que ça accroche déjà. Et puis, plus il y a de beurre, meilleur c'est. On va le dire comme ça. Vous allez disposer les pommes de terre en couches successives. Alors, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous les mettez dedans sans faire de forme. Si vous êtes un petit peu comme moi, bah, vous les rangez en cercle, chevauchés. Vous allez voir, ça fait très très sympa à la cuisson. Voilà, donc ça, c'est une question de goût. Ensuite, quand vous avez fait vos couches successives de pommes de terre dans votre plat gratin, vous allez prendre un saladier et vous allez battre les œufs comme si vous faisiez une omelette. Et puis, dedans, vous allez ajouter le lait, la crème. Vous allez assaisonner bien évidemment avec le sel, le poivre, les 3 pincées de muscade. Là, je vous avais dit 2 pincées dans les ingrédients. Moi, j'en ai rajouté 3, pourquoi pas. Voilà, tout dépend de votre goût et si vous aimez la noix de muscade, elle va parfumer vraiment ce gratin. Et puis vous allez fouetter l'ensemble et verser sur les pommes de terre. Voilà, c'est tout simple. Et vous allez parsemer le plat de petites lamelles de beurre avant de l'enfourner dans un four à 210 degrés. Donc, alors... J'ai mis 210 degrés, mais comme vous avez votre canard qui est au four, qui cuit pendant 1h30 à 160 degrés, vous ne pouvez pas cuire les deux en même temps.
Oui.
Donc, vous pouvez le mettre votre canard à 180 et le gratin à 180 et vous faites cuire les deux en même temps. Ça vous fait une
économie. Faut un grand four quand même.
Faut un grand four, oui. Mais moi, j'ai un grand four.
Ouais.
Voilà, parce que j'ai une grande famille. Et puis parce que je cuisine pas mal. Voilà, et vous enfournez donc le gratin, votre plat, et vous laissez cuire pendant 5 minutes. Alors, 50 minutes. Évidemment, ça se sert chaud avec son canard, bien évidemment. Alors, ce sont, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des plats qui sont très copieux et festifs, mais c'est tellement délicieux. Voilà. Et si vous en reste le lendemain, faites-le réchauffer donc, l'ensemble sous une feuille de papier d'alu. C'est important pour éviter que ça sèche et à feu, à four très doux. Hein, donc, voilà, tout dépend... Tout dépend du four que vous avez, mais à feu très doux. Si vous avez des fours ventilés, c'est aussi bien. Moi, j'ai un four à gaz, donc voilà, je le fais. Et surtout, je couvre de papier aluminium et c'est important. Voilà, pour éviter que ça devienne trop sec. Voilà, moi, deux belles recettes qui sont frais, effectivement un peu longues au niveau de la cuisson, mais j'avoue que, mis à part le temps de la cuisson, c'est facile à faire hein, quand même. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et la préparation, c'est surtout ça, quoi. La préparation, parce que bien souvent, on dit, oh, on n'a pas le temps. Mais si vous le faites à l'avance, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est vraiment un plat festif que vous pouvez préparer pour Noël. Ça peut être très, très, très sympa. Écoutez, on passe au dessert maintenant. Alors, j'aime bien parce que j'ai trouvé gâteau aux noisettes. Et une noisette, l'orange, ça fait penser vraiment à Noël.
Ah oui, oui.
Il manque plus que la cannelle, hein. Et on a les parfums du vin chaud.
Ça.
Ça, on en verra pour une autre fois aussi. La confiture de Noël, entre autres, qui peut être sympa. Ou après Noël, c'est comme on veut. Nathalie, peut-être une histoire sur ce gâteau.
Oui.
Parce que ce gâteau a aussi une histoire.
Tout à fait. Alors, selon plusieurs boulangers interrogés, le gâteau aux noisettes serait l'invention de la confiserie Zürcher, je pense qu'on dit Zürcher, à Colombier. Selon Philippe Zürcher, l'actuel héritier, il s'en faisait déjà à l'ouverture de la boulangerie en 1832. Mais son grand-père, qui a développé la production à l'aube de la Première Guerre mondiale, à son origine, le gâteau aux noisettes était en fait un gâteau aux amandes. En effet, jusqu'à la Première Guerre mondiale, cette dernière remplaçait les noisettes concassées dans la garniture. Durant la Grande Guerre, les prix de l'amande étant devenus bien trop élevés, elles furent remplacées par les noisettes que l'on pouvait facilement trouver localement. Et il s'est maintenu sous cette forme et a fini par se diffuser dans de nombreuses boulangeries du canton de Neuchâtel, où il est aujourd'hui une spécialité toujours bien vivante et appréciée. Ce délicieux gâteau aux noisettes à déguster avec un thé ou un chocolat chaud, au retour d'une promenade en forêt. La légende veut que les écureuils en raffolent. Eh oui, noisettes, écureuils. Peut-être viendront-ils en chaparder quelques menus morceaux.
Merci Nathalie pour cette douceur et cette poésie. C'est joliment dit. Mais écoutez, je vous propose, avant de vous dire la recette de ce gâteau aux noisettes, et avant que les écureuils viennent les manger, je vous propose une pause musicale. À tout de suite.
Tu vois ce soleil qui brûle ton visage et ces sourires qui courent sur la plage. Tout s'en ira comme ce voilier qui part, qui traverse le ciel pour prendre le large. Tout s'en ira, les hivers et le vin. Tout s'en ira, les vipères et les gens. Les hirondelles qui auront fait les printemps et les deux ailes dans mon dos car tu m'aimes tant. Tout s'en ira, emmène-toi et moi. Tout s'en ira trop tôt, d'ici là suis-moi. Tout s'en ira, oh, même toi et moi. Tout s'en ira demain, mais demain c'est loin. Regarde le ciel comme c'est beau quand il gronde. Tout s'en ira comme la nuit reprend les ombres et ce voilier et les tours et le monde. Tout s'en ira, les histoires et les contes. Tout s'en ira, les retards et les montres. Les hirondelles qui ne feront plus rien et mes deux ailes envolées, je les aimais bien. Tout s'en ira, emmène-toi et moi. Tout s'en ira trop tôt, d'ici là suis-moi. Tout s'en ira, oh, même toi et moi. Tout s'en ira demain, mais demain c'est loin. Demain, demain, demain.
Et demain, c'est loin, c'est loin, c'est loin. vamos a viajar en el mundo. Quiero olvidar que él va a cambiar. Tico, tico, puedo disfrutar de todo. Porque todo se irá, todo se irá. Tico, tico, vamos a viajar en el mundo. Quiero olvidar que él va a cambiar. Tico, tico, puedo disfrutar de todo. Porque todo se irá, todo se irá. Demain, demain, demain.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici donc après le gratin dauphinois, le canard, l'orange, on passe au gâteau aux noisettes. Alors, Nathalie nous disait que les amandes, ça coûte encore très cher parce que elles viennent pas d'ici. Actuellement, dans nos jardins, vous avez des noisettes qui tombent par terre.
Quand on a la chance d'avoir un noisetier.
Ouais. Enfin, alors dans les jardins, vous avez dans les forêts, vous en avez des noisetiers.
Ouais.
Donc, allez vous balader en forêt et allez chercher vos noisettes. Alors, effectivement, c'est contraignant parce qu'il faut en ramasser beaucoup et qu'il faut les casser après. Moi, je prends un petit marteau et je les prends l'une après l'autre et je donne un petit coup dessus et ça m'enlève. Alors, j'ai une copine qui fait autre chose. Elle met ses noisettes pour les décortiquer. Hein, donc, elle met ses noisettes sur deux plaques et elle passe sa voiture dessus. Je te jure, ouais. Je l'ai déjà vu faire, c'est excellent, excellent. Et alors, bon, toutes les noisettes, elles sont écrasées, mais elles sont écrasées, écrasées.
Ah oui, donc, oui, c'est ça.
Donc voilà, ça fait de la charpie, elle n'a pas besoin de les mixer. Voilà, c'est pour les petites histoires.
Bonjour les pneus après.
Non, parce que c'est deux plaques. Elle met deux plaques en métal et entre ces deux plaques, elle met ses noisettes et elle passe juste une roue dessus, aller-retour. Et t'entends crac, 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 ça explose de partout. Enfin, je te jure, je l'ai vu faire, j'étais pété de rire. Ça fait de la bouillie avec des coquilles, mais après, faut trier, quoi. Donc, moi, j'aime bien mon système de petits marteaux. Voilà. Donc, si vous voulez quelque chose de pas très cher, allez vous balader en forêt avec les enfants, avec la famille, avec les amis. Et puis, allez vous chercher vos noisettes. Donc, on aura besoin, pour les ingrédients de ce gâteau aux noisettes, on aura besoin de 200 g de noisettes décortiquées et émondées, 50 g de sucre, 100 g de farine, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 100 g de miel, 60 g de beurre fondu. Et côté matériel, on aura besoin d'un mixeur électrique, d'un saladier, d'une cuillère en bois et d'un moule à cake. Et pour ça, vous aurez besoin de 15 minutes de préparation. Vraiment, c'est pas énorme. Et par contre, vous aurez 30 minutes de cuisson, ce qui vous laisse le temps de faire autre chose pendant que ça cuit. Allez, on va commencer cette recette par un conseil. Alors, le conseil que je vous donne pour émonder les noisettes, parce que c'est un terme culinaire, émonder, en fin de compte, les émonder, c'est enlever la petite peau qu'il y a dessus. Donc, quand elles sont sèches, ça s'enlève tout seul. Quand elles sont fraîches, on a du mal. Eh bien, vous allez les plonger dans l'eau chaude pendant une minute et vous allez les égoutter, les sécher et vous allez les frotter entre vos mains et ça va débarrasser la noisette de cette petite peau brune. Voilà, ça s'appelle émonder. Donc on les plonge dans l'eau chaude pendant une minute. Alors j'ai dit chaude, pas bouillante.
D'accord.
Hein, ce qui n'est pas du tout la même. Voilà, donc vous faites ça. Quand une fois que vos noisettes sont émondées et décortiquées, et vous allez maintenant les mettre dans le bol du mixeur pour les mixer et vous allez les mixer avec le sucre. Donc vous allez broyer grossièrement, hein, c'est pas la peine de faire de la poudre, ça sert à rien, c'est pas fait pour. C'est juste, si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez le faire au pilon. C'est un petit peu plus long, mais vous allez avoir des petits morceaux qui vont rester. C'est aussi bien. Et puis, dans un autre saladier, vous allez mélanger, dans un saladier, vous allez mélanger de la farine avec la noisette, le sucre broyé, d'accord ? Vous allez faire un petit puits au centre. Et au centre, vous allez y déposer les œufs et les jaunes d'œufs. Les blancs, ben, vous les gardez, bien évidemment, comme d'habitude, pour en faire des meringues par la suite. Ensuite, vous allez donc, je reviens sur mon puits, vous allez prendre une cuillère en bois et vous allez rajouter à cette préparation dans votre puits le miel, le beurre fondu. Et vous allez mélanger. On est toujours dans un saladier, hein, donc c'est pas une pâte de brioche, donc c'est mieux de le faire dans un saladier, puisque ça va être un petit peu liquide. Vous mélangez bien pour que la pâte soit homogène et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc si vous voyez que vous avez du mal avec la cuillère en bois, vous prenez un fouet et vous fouettez. Ça va être un peu plus dur parce que c'est quand même une pâte un peu épaisse. Mais voilà, faut vraiment que votre plat, votre pâte soit bien homogène. Alors il y aura des petits granulés puisqu'on a fait, on aura un petit peu broyé les noisettes. Si vous n'aimez pas ce style de granulés dans le gâteau, ben vous le broyez davantage pour que ça devienne de la poudre. Voilà. Que ce fassiez l'un ou l'autre, le gâteau sera tout aussi bon. Ensuite, quand vous avez fait cette préparation, vous allumez votre four à 150 degrés, vous beurrez votre moule à cake et vous le farinez. Pour le démoulage, ça sera beaucoup mieux. Et ensuite, vous allez verser tout simplement la préparation dans votre moule à cake. Et vous allez enfourner et cuire donc à peu près 25 à 30 minutes à 150 degrés. Voilà. Vous surveillez la cuisson. Hein, donc au bout de 25 minutes, vous surveillez la cuisson. Si vous voyez que votre gâteau est bien doré, ben, il peut être cuit au-dessus, mais pas à l'intérieur. Alors, je vous rappelle l'astuce du couteau. Vous allez mettre votre couteau au milieu de votre gâteau et vous allez le planter. S'il ressort sec, c'est qu'il est cuit. S'il ressort avec un petit peu de pâte, c'est que évidemment, il faudra le recuire légèrement. Enfin, pas le recuire, continuer à le cuire. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis les 25 à 30 minutes. Ça dépend du moule que vous avez. On est bien d'accord que si vous avez un moule rond, votre autour sera cuit, mais le milieu ne sera pas forcément cuit. Voilà, donc tout dépend de l'épaisseur de votre moule. Donc c'est pour ça que je vous dis de surveiller la cuisson avec un couteau. Alors ce dessert, ben, il est génial parce que on peut le laisser tiédir avant le démouler, et on va le déguster ou tiède ou froid. L'important, c'est de se régaler.
J'ai deux petites questions. J'ai pas vu de levure. Est-ce qu'il va quand même gonfler même si on met pas de levure?
Oui. Oui, parce qu'on a on a fouetté, et plus vous allez, et puis c'est un gâteau qui est qui va gonfler naturellement. Je vais prendre un exemple. Des madeleines.
Oui.
Tu mets de la levure?
En fait, j'ai jamais fait de madeleine.
Les madeleines, on met pas de levure dedans.
D'accord.
La levure chimique. Si vous voulez mettre de la levure chimique, vous pouvez rajouter. Mais il faut savoir que ça va gonfler et il faudra remplir votre moule aux trois quarts.
Oui. Alors que là, on peut le mettre.
Alors que là, si à hauteur, il va gonfler. L'idée, c'est que il va légèrement gonfler, mais vous attendez pas à ce qu'il fasse un cake bombé. Voilà.
D'accord, oui, parce que le fait de fouetter, ça amène de l'air et du coup,
tout à fait.
C'est ça.
Tout D'accord. à fait. Alors après, il y a d'autres façons, mais ça ne s'appelle plus un gâteau à noisette. Vous pouvez séparer les blancs en neige, les blancs, monter okay. les blancs en neige. Vous pouvez faire ça. Après, c'est vous qui voyez.
Ça va lui donner de la légèreté, du coup.
Oui, vous pouvez aussi rajouter la levure chimique. Ça, c'est voilà, vous pouvez, mais
ouais, une petite cuillère à café, histoire de se rassurer.
Voilà, l'histoire de se rassurer, c'est aussi bien. Oui, oui, oui. Enfin bon, c'est pas ta cuillère, c'est le sachet entier à la limite. Voilà, tu
ah
fais
ouais,
ça.
Carrément.
Mais dans ces cas-là, mets-le par précaution, mets-le dans deux moules. Voilà, par précaution.
D'accord.
Parce que la levure chimique, quand tu en mets un peu trop, ça gonfle bien.
Ouais.
Ça gonfle bien. Voilà. Donc, ça, c'est un gâteau qu'on peut manger en dessert. Alors, c'est. Pas un étrouffe chrétien, mais c'est un peu sec hein,
c'est
quand
ça.
Même.
Ouais.
Mais c'est un gâteau qu'on peut manger au goûter. Voilà.
Oui, puis on peut faire une petite sauce à côté pour peut-être pour qu'il soit moins sec.
Ouais,
un coulis ou quelque chose, je ne sais pas.
Ben, non, moi je ne le ferai pas comme ça parce que ce n'est pas crémeux. C'est pas, enfin après vous faites comme vous voulez hein. Tu peux verser aussi un chocolat chaud dessus et ça et t'attends que le chocolat bloque
ou manger avec un chocolat chaud et tremper
ben voilà enfin bon, c'est ce qu'on disait hein. Ça se mange avec du thé du chocolat
oui,
chaud on est à l'approche de Noël ben pourquoi pas faire un chocolat chaud avec un gâteau aux noisettes voilà vous pouvez faire comme vous voulez de toute manière les gourmands vous les mangerez comme vous voulez il y a aucun problème. Enfin, moi, j'irai pas voir. Moi, je l'aime bien chaud. Je l'aime bien tiède.
Tiède, ouais.
Ouais, et j'aime bien tiède parce qu'on a tout cet arôme de noisette qui ressort et qui va en bouche. Et vraiment, c'est super bon. Je rajoute rien d'autre. Voilà. Il faut savoir que c'est du miel. On a du miel aussi
oui,
dedans.
Oui, c'est vrai.
Choisissez. Alors, pour le miel, moi, j'aime bien travailler le miel d'acacia parce que c'est celui qui a le plus de goût. Après, si vous voulez mettre du miel de lavande, vous pouvez mettre de la lavande.
Il y a tellement de sortes de miel.
Exactement.
Prenez le miel que vous aimez, en fin de compte.
Voilà, exactement. Hein. Voilà. Vous avez aussi le miel de châtaigne qui va arriver, là, parce qu'on est dans la période de récolte. Enfin, on a eu la période de récolte. Donc, le miel de châtaigne peut être aussi bien, parce que la châtaigne et la noisette se marient bien ensemble.
Ouais.
Donc, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, selon votre goût. L'idée, c'est de vous éclater le palais. Voilà.
Et donc, ma deuxième question, c'était comme à la base, c'était un gâteau à l'amande. En fait, on peut tenter de faire le même gâteau avec plusieurs fruits secs. On peut le faire avec la noix aussi, j'imagine.
Alors, perso, moi, la noix, j'ai du mal parce que c'est un problème buccal. Mais oui, pourquoi pas. Et même mélanger avec de l'amande, des noisettes différents fruits secs. Maintenant, je dirais de ne pas les broyer, hein, de les concasser, d'avoir des petits morceaux. Dans ces cas-là, c'est toujours le même principe du gâteau, sauf qu'on va mettre des petits morceaux à l'intérieur. Voilà.
C'est ça.
D'autres questions, Nathalie, peut-être ?
Non, c'était ça. Je me disais, ça peut faire une petite variante. Puis les gens qui n'aiment pas forcément la noisette
Alors,
ou qui n'en trouvent pas.
On peut encore faire d'autres variantes. C'est plutôt que de le mettre dans un plat à cake, de le mettre dans les cassolettes.
Oui,
individuel. Et dans ces cas-là, donc, vous le remplissez aux trois quarts, surtout si vous avez mis de la levure. et ça vous fait des petits goûters sortis de l'école. Ça peut être sympa. Comme ça, on pour les gourmands, on lui en donne un. Et puis, la prochaine fois... Voilà. Et ça sèche moins à partir du moment où vous les mettez dans une boîte hermétique. Voilà,
oui, bien sûr.
Pour les conserver. Enfin, si ils arrivent à être conservés, hein, franchement... Voilà, mais quand ça sort tout chaud comme ça, en général, les gourmands, ils sautent dessus. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de notre émission.
Oui.
Moi, je suis ravie d'avoir pu vous donner encore ces différentes recettes qui de plus ça va, plus rappellent des... des réunions de famille, Noël, ouais. Parfum de l'orange, de la noisette. Voilà, on est dans l'automne. On a encore quelques rayons de soleil qui arrivent. Et ben, faut en profiter. Voilà. Moi, je vous propose de partager, de refaire et de faire toutes ces recettes en famille avec vos amis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour et même heure. Je vous souhaite un excellent appétit, une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.